Libre-échange.
Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Assoit dans Libre-échange. J'ai notre invité aujourd'hui, le président de la FISA, M. Youssef Alaoui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va faire avec vous le point de l'évolution évidemment du secteur avicole, un secteur qui emploie beaucoup de gens. On va faire aussi un point avec vous de ce que ça représente en termes de chiffres. Et pour m'accompagner, représenter la vie éco, c'est Mehdi Johari qui a fait le déplacement. Ça va mon cher
bonjour,
Mehdi?
Bonjour, très très bien.
Alors, c'est Alaoui, je rappelle d'abord que la FISA, c'est la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole, que vous regroupez l'ensemble de la filière et des acteurs du secteur avicole. Juste pour nous mettre en condition, c'est combien d'emplois aujourd'hui la FISA, sachant qu'on est dans le monde industriel, dans le monde agricole,
dans le monde du commerce aussi.
Dans le monde du commerce, la distribution, exact.
Alors, bonjour Thémy, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, je rappelle que la FISA, effectivement, maintenant, depuis l'année dernière, est reconnue comme seule interprofession représentant un secteur parce qu'au Parlement, donc, il y a une loi qui régit les interprofessions. Et c'est très important. Il faut donc un certain niveau de représentativité pour bénéficier, entre guillemets, de ce label de représentant du secteur. Comme vous le dites, c'est un secteur qui emploie en main-d'œuvre directe, c'est-à-dire entre les usines d'aliments, les éleveurs et le personnel qui travaille sur les fermes, les producteurs de poussins, les abattoirs qui consomment beaucoup de main-d'œuvre. Nous sommes à peu près 180 000 personnes. Et au total, disons, lorsque vous rajoutez effectivement tout ce qui gravite autour, les transporteurs de volailles, les tueries, les yachettes, vous parlez, donc vous rajoutez, nous sommes à peu près à une population qu'on peut considérer de 350 000 personnes.
Oui, c'est impressionnant. C'est un niveau de revenu global sur l'année
Alors,
combien de milliards de dirhams
en chiffre d'affaires direct, je dirais. Donc uniquement en production d'œufs, de poussins, de poulet, d'aliments, nous sommes donc effectivement à fin 2017 à près de 30 milliards de dirhams, même un peu plus de 30 milliards de dirhams.
Le Maroc se comporte bien en termes de consommation?
Oui, alors nous sommes sur des niveaux d'un peu moins de 20 kilos, disons 18,7 kilos par an par habitant et 180 œufs par an par habitant. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne continentale, bien au-dessus de la moyenne au niveau de l'Afrique du Nord. Alors comparativement, je vous dis, on a à peu près 20 kilos. Sur les pays européens, on peut considérer que du nord de la Méditerranée, entre 30 et 35. Mais, alhamdoulilah, en 10 ans, la consommation a plus que doublé et nous sommes largement dans les objectifs du contrat programme.
Quelles sont les recettes qui font qu'on a des taux de croissance satisfaisants comme ceux que vous présentez?
Je pense que d'abord, la croissance du Maroc en elle-même nous tire un petit peu. Maintenant, il faut savoir que les produits, et puis on en parlera certainement, vous nous interrogerez dessus tout à l'heure, contrairement à ce qu'on peut voir, les produits ont bien évolué. De la valeur ajoutée créée, nous ne vendons plus que le poulet en état entier. Vous avez certainement vu le développement de la charcuterie,
oui.
De la dinde, des nuggets, de beaucoup de produits donc, où effectivement on a dû donc créer de la valeur ajoutée. Et je pense que la consommation, le mode de consommation d'il y a 10 ans a changé, n'est plus le même.
Alors on va profiter de votre présence dans le studio d'Assoit dans Libre-Échange cette semaine pour faire avec vous aussi un point sur votre contrat programme, puisque la Fédération a un contrat avec l'État qui met des obligations de part et d'autre. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les grandes réalisations qu'on doit retenir aujourd'hui depuis que vous avez signé ce contrat programme?
Alors, il faut savoir que nous sommes au deuxième contrat programme. Le premier, nous étions effectivement en avant sur le contrat programme. Donc, nous avons fait un contrat programme, disons, deuxième contrat programme qui s'achève à 2020. Nous sommes à 2018, en moyenne globalement, que ce soit sur les objectifs de production de volume, de poulet ou d'œufs ou d'aliments ou d'investissement, nous sommes pas loin de 85-90%. Et sur certaines branches, nous sommes même au-delà, nous sommes à 120-130%. Nous y serons, nous serons dans les clous, nous serons dans les chiffres, sauf pour la partie effectivement export, où nous ne serons pas...
Pour
le moment, nous ne sommes pas dans le train d'être au rendez-vous, mais je pense que sur les deux prochaines années, on va essayer de
rattraper. Nous parlerons d'international et d'export à la fin du magazine, mais dis-je, allez.
J'aimerais moi rebondir sur votre dernière réunion avec monsieur le ministre. Donc, vous avez revendiqué le statut d'agriculteur. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous êtes toujours considéré comme des marchands de gros? Et est-ce que cela ne risque pas de constituer un manque à gagner au cas où Vous êtes.
Alors, statut d'agriculteur pour une partie de la filière.
Bien entendu, c'est pour la partie élevage, les éleveurs. C'est une aberration de notre système fiscal, je le dis clairement. Vous pouvez faire un benchmark sur le monde entier. Nous sommes les seuls aviculteurs à ne pas être considérés comme agriculteurs. Moi-même, sur ma ferme, sur le même élevage, sur le même type de bâtiment, à un côté de l'autre, je fais de l'élevage de ruminants et de l'autre de la volaille. Je donne de l'aliment. Effectivement, la formulation est différente. L'un, je suis considéré comme agriculteur et l'autre, non. Au Maroc, nous sommes considérés comme marchand de gros. C'est une aberration. On produit sur des terres agricoles, comme tout le monde. On n'est pas en train de produire en ville. Et donc, c'est une aberration qui a été maintenue. Et nous espérons qu'elle sera levée. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, nous ne demandons pas le statut fiscal pour échapper à l'impôt. Il faut savoir que nous payons l'impôt. Nous, lorsque nous achetons nos aliments auprès des usines, nous payons de la TVA.
Oui.
Nos ouvriers sont déclarés à la CNSS. Et la plupart sont au SMIG et pas au SMAG.
Qu'est-ce que ça va vous apporter ce statut d'agriculteur en fait ?
D'abord, je vous le dire, et croyez-moi sincèrement, ça va apporter une reconsidération par rapport à l'éleveur lui-même. Je peux vous assurer, marchand de gros. Et je ne dénigre pas du tout les marchands de gros.
On a besoin de marchands de gros.
On a besoin
d'agriculteurs et d'éleveurs.
In fine, de toute façon, le marchand de gros, c'est l'étape après à ceux à qui on vend. Mais vous savez, l'éleveur ou l'agriculteur est fier de son métier en général et être considéré comme agriculteur, là, c'est une fierté. Maintenant, effectivement, sur peut-être, vous savez, l'impôt agricole se met en place provisoirement en fonction d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Peut-être que la première année ou deuxième année, on va bénéficier du fait d'un taux d'IS réduit. Mais c'était une histoire de 5 ans. Et après, nous allons tomber dans la normalité avec tout le monde, mais avec la considération d'être agriculteur.
J'aimerais évoquer avec vous l'évolution de ce contrat programme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que toute la partie amont, c'est-à-dire l'élevage, toute la partie abattoir, organisation des marchés de gros, une partie de l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce plan-là, ça fonctionne ?
Alors, sur la partie agro-industrielle, qu'on peut considérer comme les usines d'aliments ou la production de poussins ou les abattoirs, moi, j'ai aucun souci à dire que nous sommes aux normes européennes ou ailleurs. Et j'invite tout le monde à venir nous visiter. Nous sommes, alhamdoulilah, et tout le monde, en dehors de la loi 49-99 qui régit le secteur, nous sommes soumis à la loi 28-07 qui est l'équivalent de la HACCP. Et donc, effectivement, là-dessus, en amont, je n'ai aucun souci et nos portes sont ouvertes. On est sur la partie élevage également. Il faut savoir que 90% des élevages sont agréés par l'ONSA, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un encadrement vétérinaire. Et ce qui nous fait mal au cœur, effectivement, en tant qu'éleveur, c'est à la sortie de nos produits. C'est le problème du transport, que vous, en tant que consommateur, vous conduisez votre voiture, vous êtes
dans la rue,
vous êtes dans un car de voyageurs et vous voyez, c'est encore ces cajons en bois. Et lorsque, effectivement, vous baladez le marché de gros ou nos quartiers, c'est que les yéchettes ne sont pas au niveau où on voudrait être. Le poulet, il sort de nos fermes, je peux vous assurer qu'il est digne de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe en Europe. Je n'ai pas de souci à le dire. Maintenant, c'est la partie commercialisation et abattoir, disons, abattoirs traditionnels ou
les tueries classiques, les tueries traditionnelles. À combien on chiffre le nombre de riechettes qu'on relève ?
Alors clairement, en 2007, on était à un recensement de 7000. On est près de 15000. On a doublé chiffre en moins de 10 ans.
Que le recensement était mal fait ou c'est en développement ?
C'est en développement. Je le dis, au contraire.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un secteur où ça vaut le coup d'aller investir les petits entrepreneurs
trouvent leur compte ? Oui, ça vaut le coup d'investir. Je veux dire d'abord deux choses. Il faut savoir que le développement se fait en dehors de tout cadre sanitaire, c'est-à-dire qu'en dehors du cadre de l'ONSA. L'ONSA ne régit pas ces autorisations-là. Et c'est là où le bât blesse, effectivement. Tout ce qui est sanitaire devait être régi par l'ONSA. Deuxièmement, clairement, vous avez des abattoirs industriels qui payent la CNSS, qui déclarent leurs ouvriers, et ceux-là, ils sont industriels. Donc, ils payent l'IS. De l'autre côté, vous avez des gens, des petites taxes locales qui ne payent rien.
Ouais, il y a une dimension tradition et il y a une dimension proximité. Transformer le Maroc en des abattoirs industriels partout, ça sera délicat. Enfin, en tout cas,
ça va aller plus loin, ça sera une aberration.
Donc vous le reconnaissez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces riechettes ? Parce que s'il y en a 15 000 aujourd'hui, ça génère de l'emploi, ça donne de la proximité. Alors évidemment, ça peut poser un certain nombre de problèmes d'hygiène. Mais ça apporte un vrai service aux citoyens.
Alors moi, je vais vous le dire, clairement, moi, ces Liéchettes mises à niveau, c'est pas 15 000, j'en voudrais 30 000. J'en voudrais 30 000. C'est des formidables points de vente. Il est clair qu'une ménagère ne va pas prendre le bus, aller sur un supermarché pour acheter deux poulets ou acheter deux œufs. Au contraire, moi, je vous dis, il faudrait doubler le nombre. Doubler le nombre. Mais juste que l'achlik vis-à-vis du consommateur, et vous le savez, vous êtes
tous consommateurs, oui, tous consommateurs.
Et les articles qui sortent, ou les reportages, nous font mal au cœur, nous, en tant qu'éleveurs, parce que nos produits sont bien préparés. Ils sont bien préparés.
En fait, ça ne valorise pas, ça dévalorise même...
Ça dévalorise.
Ouais. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Parce que là, nous sommes un des points faibles du secteur. Votre contre-programme est en cours. L'État doit accompagner cela. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Votre contre-programme va à 2020. Il reste un an et demi, deux ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour donner des résultats visibles?
Concrètement, donc, je vous annonce que la semaine dernière, nous avons tenu des réunions donc, tripartites, ministère de l'Agriculture, Industrie et Intérieur. Clairement, il y a un contrat-programme...
Intérieur, vous voulez dire ministère de l'Intérieur?
Ministère de l'Intérieur, d'accord. Oui. Le contrat-programme qui a été signé entre l'agroalimentaire... les fédérations de l'agroalimentaire, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture consacrent la reconversion ou la mise à niveau de ces Liéchettes, d'accord, et avec une enveloppe de 30 000 dirhams pour 2300 points de vente.
Est-ce donc que c'est suffisant, un montant de 30 000 dirhams?
Oui, 30-40 000 dirhams, c'est suffisant pour la mise à niveau, je le confirme. Je vais vous le dire, nous-mêmes, dans notre centre de formation des NGMA, c'est ce que ça nous a coûté. Nous avons mis, effectivement, un modèle d'abattoir de proximité de ce qu'on appelle une RIHM mise à niveau. Effectivement, l'enveloppe est suffisante. Et moi, je pense que si les 2300 points de vente sont là, moi, je suis confiant et je suis sûr que le ministère de l'Industrie et de l'Agriculture rajouteront une autre enveloppe supplémentaire pour reconvertir le reste. Moi, j'y crois. Je pense que maintenant...
Est-ce que ces points de vente, ces Riachettes, ces tueries transformés qui vont bénéficier du financement du contribuable?
C'est bien ça, effectivement.
Est-ce qu'elles vont avoir une enseigne, un panonceau qui va identifier des règles de qualité, des règles d'hygiène, un engagement de traçabilité?
Alors, c'est des simples règles d'hygiène. C'est-à-dire, vous savez, quand je dis 40 000 dirhams, c'est quoi? C'est carrelé, c'est avoir du carrelage, avoir un point d'eau, un point d'accès d'eau.
Bien sûr, parce qu'il faut laver.
Voilà, du matériel qui est lavable, en inox, des couteaux lavables et tout. Un contrôle du personnel, avec une fois par an, des radios auprès du médecin, comme ça se pratique ailleurs. Et c'est tout. Et ce n'est pas une marque. On parle et d'un contrôle, bien sûr, qui n'existe pas maintenant, d'un contrôle de l'ONSA, avec une traçabilité. La traçabilité est simple. C'est juste le bon d'où est venu. S'il est venu du marché de gros, on a un bon. S'il est venu de chez la ferme, on a un bon. Tout simplement. Vous savez, il n'y a pas de problème sanitaire. C'est un problème d'hygiène. Et l'hygiène, alors ça ne demande pas beaucoup d'argent. L'hygiène ne demande pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que pour nous, on ne trouve pas ça compliqué. Et là, je vous dis, c'est nos partenaires. Et au contraire, on demande...
Est-ce que ça interviendra sur le prix du produit qu'on vend aux consommateurs?
Non, justement. C'est pour ça que je vous dis, c'est de l'hygiène. Alors, on ne leur demande pas de construire. On leur demande pas de... On demande de l'hygiène. Et je peux vous assurer... Comme vous avez dit, si on est passé de 7 000 à 15 000, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Et tant mieux. Au contraire, moi, c'est ce que je dis.
Mais des joueurs.
Alors, on remarque que sous l'effet des deux contrats programmes, il y a une augmentation de la production. Donc, comment comptez-vous trouver des débouchés à l'export et augmenter la consommation nationale?
Alors, concrètement, c'est que, effectivement, heureusement, nous sommes même en surcapacité. Il faut le dire, sur certaines branches, comme la production de poussins ou d'aliments, nous sommes en surcapacité. Maintenant, il faut savoir, heureusement, que la consommation a suivi. Elle va suivre. L'idée, effectivement, c'est la protéine la moins chère. Comparativement, je ne comparais pas par rapport au poisson à la viande, mais c'est ça. Clairement, il faut le dire, c'est la protéine la moins chère, la plus accessible.
La première source de protéines.
La source de protéines et animales. Et donc, heureusement que la consommation suit. Maintenant, effectivement, l'ouverture sur l'export est très intéressante pour nous. Alors, il y a l'export, il y a aussi, il faut savoir que ce qui est bien, ce qui n'est pas dans la culture de notre secteur, quelques entreprises ont investi dans d'autres pays. Ce n'est pas une culture d'export. Et moi, je suis plus dans cette culture-là de co-investissement où j'encourage effectivement les Marocains sur les pays. Effectivement,
De quel pays vous parlez,
Maintenant, clairement, nous sommes. Et c'est vrai, nous suivons cette feuille de route qui est d'un partenariat sud-sud. Clairement, nous avons des entreprises marocaines qui sont plantées en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et il faut continuer comme ça. Il ne s'agit pas justement d'exporter, il s'agit aussi de créer un écosystème dans ces pays avec des partenaires locaux. Et je pense que c'est une bonne voie de débouché. Sur l'export, effectivement, nous ne sommes pas encore au rendez-vous, mais si que ce soit d'export ou des partenaires sur place, moi je suis très confiant là-dessus.
Qu'est-ce qu'on peut exporter valablement et vers où ?
Alors clairement, ce qu'on exporte maintenant, c'est tous les produits thermisés, c'est-à-dire la charcuterie.
Oui.
Et donc effectivement, vous avez même des dates de péremption jusqu'à sur les Lancheon jusqu'à 3 ans. Et donc oui, c'est un produit qui marche bien parce qu'il n'y a pas besoin de le mettre au frais. Vous savez, c'est en conserve métallique et c'est très bien. Il y a l'export de l'œuf à couver, c'est-à-dire qu'il y a des productions locales, il y a des couvoirs qui existent localement, qui produisent le poussin, mais on leur envoie l'œuf à couver, qui est mis en incubation pendant 3 semaines, et on produit. Il y a de l'aliment qui est exporté. Donc en fait, on touche tout, sauf bien entendu le poulet vivant. Et de toute façon, ce n'est pas que le cas du Maroc, le poulet vivant ne s'exporte pas de pays à pays.
Ne s'exporte pas, oui. Voilà. OK. Vous nous dites l'Afrique subsaharienne, et en particulier francophone, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest et elle est. Le prolongement naturel, géographique du Maroc représente un potentiel. Est-ce que l'Europe présente un potentiel compte tenu de ce qui est engagé aujourd'hui de la part de l'Union européenne en termes de contrôle des systèmes chez nous ?
Alors, vous faites bien d'en parler. Effectivement, je voudrais clarifier cette position. Nous, en tant que professionnels, c'est nous qui avons demandé à pouvoir exporter, à être contrôlés. Pour nous, ça nous a obligés à rehausser le niveau de nos standards. L'Union européenne, pour ses missions, on a encore des rendez-vous annuels. Maintenant, dans l'état actuel, nous ne pouvons exporter. Nous notre priorité, c'est de dire pourquoi vous m'avez exporté, nous non. Notre priorité, sur la charcuterie, on est capable de le faire. C'est par étapes. On commencera par les produits thermisés, par la suite peut-être par les poulets packs, c'est-à-dire emballés. Mm-hmm. Donc l'idée, c'est ça. Hena, c'était un signal fort qu'on voulait donner, et c'est un signal que notre secteur voulait se donner à l'Union en disant, écoutez, il faut se mettre à niveau, si on se met à niveau.
Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à exporter ou pas encore ?
Sur l'Union européenne, pas encore. On attend la fin des contrôles et de la mission pour pouvoir le faire. Et ça sera par étapes.
Est-ce que leur environnement global, en termes d'hygiène, est favorable à cela ?
Alors, il faut savoir.
C'est des choses que vous pouvez faire chez vous, mais des choses qui ne dépendent pas de vous, que vous subissez.
Bien sûr. Je répète, effectivement, il y a encore certaines maladies bénignes qui existent au Maroc, qui fait qu'on ne peut pas encore exporter. Mais il faut savoir, là, c'est ça ce point qui est important, c'est que sur l'Union européenne, lorsqu'un pays ou la France est touché par le phénomène de grippe aviaire, est-ce qu'on bannit tout le pays ? Non, on fait un zoning.
Absolument.
Alors, ce que nous demandons, c'est cette réciprocité. Si j'ai ma ferme qui est agréée, si j'ai un abattoir qui est agréé aux normes, si j'ai mes élevages agréés, et tant mieux, pourquoi pas ? Donc c'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner un pays en entier, et le zoning est important.
Allez, toute dernière question.
Est-ce qu'on a une offre exportable en Europe ? Est-ce que les produits avicoles marocains trouveront preneur en Europe ?
Sur la charcuterie, oui. Sur la charcuterie, j'en suis convaincu, dans une première étape. Après, c'est des niches, bien sûr, bien entendu.
La charcuterie halal ?
Oui, bien entendu, charcuterie halal. De toute façon, tout est produit ici halal. Maintenant, il y a des niches. Il faut savoir que nous n'irons pas combattre le volume des exportations brésiliennes et américaines sur un poulet standard. Alhamdoulilah, il y a du poulet fermier qui a commencé au Maroc. Donc il y a des niches sur lesquelles. Tout ça, c'est de se mettre sur des niches et nos industriels sont suffisamment aguerris pour pouvoir s'y mettre.
Merci Youssef Alaoui. Je rappelle que vous êtes le président de la FISA, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, et vous êtes notre invité dans Libre-Échange cette semaine. On va conclure, comme chaque semaine, par un top et un flop. Et je vais commencer par le flop. Le flop concerne, et ce n'est pas la première fois qu'on revient dessus, la consommation du ciment qui a enregistré au terme des 4 premiers mois de 2018 un recul de 5,7% après une baisse que nous avons constatée de près de 7% à fin mars selon la direction des études et prévisions financières relevant du ministère de l'Économie et des Finances. La baisse des ventes de ciment fait suite à une baisse modérée au cours du mois d'avril de 2,3% après un recul de 15,1 points en mars 2018, sous l'effet des fortes pluies enregistrées qui avaient évidemment fait de retard sur un certain nombre de chantiers, mais des changements et des baisses dans le ciment ne constituent pas une très bonne nouvelle pour l'économie, puisque si le bâtiment est en retard, ce n'est pas bon. On va conclure par notre top, et le top concerne les aéroports du Royaume qui ont enregistré en avril 2018 un volume de trafic aérien de plus de 2 millions de passagers, soit une hausse de près de 10%, un chiffre exact de 9,53% par rapport à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2017. Il faut dire que l'aéroport Mohamed V a lui seul accueilli plus de 40% du trafic passager global, avec près de 870 000 passagers contre près de 840 000 à la même période de l'année dernière, en évolution de pratiquement 3,5%. Mais tous ces chiffres qui donnent des signaux verts ne peuvent pas nous faire oublier les longues queues et la durée des opérations qui sont faites dans les aéroports, et parfois le manque de sourire de certains malgré les efforts de quelques corps qui accueillent les passagers internationaux. N'oublions pas que c'est la vitrine de notre pays et qu'on a intérêt à ce que tous les efforts soient mis pour que les chiffres qui permettent de voir une croissance donnent aussi de la satisfaction à ceux qui nous visitent. Merci beaucoup, Youssef Alaoui, d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Des journées, à très bientôt, évidemment. Dans les studios d'Assouat, pour Libre-Échange, je vous donne pour ma part rendez-vous, même heure, même endroit. C'est sur Assouat, vous savez où là ça se passe. C'est ici, à la semaine prochaine.